Quelle est notre situation? Vous l'avez évoqué d'un mot, elle est exactement le contraire de celle des années 30. Il y a une économie dite globalisée, c'est-à-dire qui a largué toutes les amarres. Une économie, ce n'est pas qu'elle soit mondiale ou internationale, elle est globalisée, ça veut dire qu'elle est au-delà de toute intervention, de tout contrôle, de toute réforme qui vienne du dehors des acteurs économiques eux-mêmes, et en particulier des acteurs financiers. Et en face de cela, et c'est ce qui m'intéresse personnellement, comme, disons, sociologue ou historien du présent, en face, il n'y a rien. Mais c'est une crise économique et financière qui, massivement, n'a pas été prévue, ni comprise. Il y a quelques personnes, on cite toujours le nom, Stiglitz en tête, qui ont compris la situation, mais prenons un cas parmi des milliers, un prix Nobel, dans son discours présidentiel à l'Association américaine d'économie, M. Lucas, dit une crise comme celle de 1929 est impensable, impossible. Nos modèles, mais aussi nos modes d'intervention, rendent cette hypothèse absurde. Mais ce qui peut être plus frappant, c'est que depuis que la partie centrale de la crise a éclaté, 2007-2008, subprime, Lehman Brothers, pas toute cette période centrale, aucune solution n'a été proposée, ni même formulée. Et ceci est complètement différent de ce qui s'est passé dans les années 30. Ce qui me frappe dans la situation actuelle, c'est la disparition du social et du politique. Les années 30, ça crie de tous les côtés. La période que nous vivons, c'est le silence. Je dirais même au-delà de cette manière facile de percevoir la réalité, c'est la fin de l'époque des réformes, c'est la fin de la social-démocratie. Le communisme a disparu il y a déjà longtemps, en fait, mais définitivement depuis la chute de l'Union soviétique, mais aujourd'hui, le fait majeur, c'est la disparition de la social-démocratie. Il n'y a pas en Europe de pays qui soient gouvernés à gauche, avec l'exception de l'Espagne. Mais vous savez, comme moi, que s'il y avait dimanche prochain des élections, Zapatero tomberait, ce qui ne veut pas dire que les Espagnols lui préféraient Rajoy. Il déteste encore plus, mais en tout cas, il n'y aurait plus de gouvernement de gauche. Il y a même des gens qui font l'hypothèse pessimiste qu'on assisterait au retour de Aznar. Donc, vous avez une absence complète de structuration, de capacité d'action, qui est due à quoi ? Essentiellement à ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire la globalisation de l'économie. Pour la première fois, l'idée d'une économie nationale disparaît complètement parce que le jeu économique, et plus exactement quand même avant tout le jeu financier ou de la partie de la finance qui s'est totalement détachée de l'économie, c'est qui est quand même aussi un phénomène d'une ampleur nouvelle. L'économie financière bis, c'est l'économie financière des produits dérivés, est une économie qui a un chiffre d'affaires largement, massivement supérieur à l'économie mondiale dans son ensemble. On est dans un monde qui a le monde de la finance. Il y a encore un capitalisme financier normal, si je puis dire, en particulier boursier d'ailleurs, où il existe certains contrôles. Mais il existe une énorme économie financière hors contrôle et où il n'y a pas à s'étonner de voir des gens voler des dizaines de milliards, faire des écrits faux depuis l'affaire Enron, qui est déjà un certain temps, jusque à des Madoff ou même aux petites opérations à la Société Générale. Donc, j'insiste là-dessus, le problème que nous avons en face de nous est, nous n'avons pas une alternative entre un tout économie et un tout social. Nous avons un tout économie qui s'est transformé en un tout financier, et en face, je ne dirais pas même des revendications, c'est le silence. On passe en ce moment, je crois, à France 2, un film qui a été fait à partir d'un livre publié en 2004-2005, sur des grèves, avec même destruction de l'outil de travail, etc. Tout ça, d'ailleurs, assez bon, à mon avis. Mais depuis 2007, il y en a plus. C'est le silence. Et la question que je me pose, que je vous pose par conséquent, c'est comment est-ce qu'on peut reconstruire des acteurs sociaux et politiques. Et par conséquent, d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut réaboutir ou aboutir à créer de nouveaux processus juridiques et institutionnels, ou pour employer un mot tout simple, de nouvelles réformes qui sont forcément en partie des refondations. Le point de vue que je défends tient en une phrase que, en réalité, j'ai déjà prononcé. Il n'y a plus de solution sociale. Parce que les institutions sociales, ce sont des processus par lesquels des ressources économiques sont utilisées en vue de certaines finalités. L'égalité, inégalité, l'éducation, pas éducation, etc. Or, aujourd'hui, le social est en ruine. Je me permets de dire que nous tous tenons des discours dans la vie quotidienne qui emploient des mots qui n'ont plus aucun sens, ou tout au moins auxquels nous ne savons plus quel sens donner. Personne aujourd'hui, sérieusement, ne sait ce que veut dire démocratie. Personne ne sait ce que c'est qu'une ville. Personne ne sait ce que doit être ou peut être l'éducation. Personne ne sait comment il faut traiter la déviance et donc les systèmes de répression ou de justice ou de punition. Nous savons tous que ça existe. Nous faisons comme si nous savions ce que ça veut dire. Mais dès que nous envisageons un problème concret, on s'aperçoit que ça vous file entre les doigts comme du sable, et que, je le répète, en m'excusant de la brutalité de l'expression, on ne sait plus de quoi on parle. La véritable crise aujourd'hui, ce n'est pas la crise financière ou la crise monétaire et la crise de croissance qu'elle entraîne. Tout ça, ce sont des crises majeures. Mais la vraie crise, la crise des crises, c'est que nous ne savons pas penser et agir. Nous avons la tête et les mains vides. Ça ne veut pas dire que nous sommes devenus tous brutalement stupides. Ça veut dire que nous sommes devant une situation radicalement nouvelle que j'ai appelée, pour simplifier, la globalisation, ou si vous préférez, la destruction de l'idée de société, car l'idée de société voulait dire une société nationale, c'est-à-dire un système d'interdépendance entre des actions économiques, sociales, juridiques, politiques, culturelles, etc. Tout ça n'existe plus. Et lorsqu'un juriste nous explique le vide absolu de textes juridiques, je crois qu'il dit malheureusement l'exacte vérité. Et que cela peut s'appliquer à tous les domaines, à l'éducation comme à la décentralisation, aux pouvoirs locaux, à l'urbanisation, au respect des minorités, à la situation des immigrés, à n'importe quoi. Il n'y a même plus de débat. Il y a, j'ai envie de dire, une situation dont l'issue la plus probable est une crise qui entraîne d'autres crises allant jusqu'à la catastrophe. Ceci se traduisant en même temps par le fait que nous connaissons bien, nous sentons bien tous les jours, que l'Europe est pratiquement, un peu avec le monde arabe, enfin l'Europe est la partie du monde qui est en stagnation, parfois en récession, dans un monde qui est en pleine croissance. Et donc la question que je me pose, et je ne vais pas prolonger, parce que je veux poser une question. Et cette question, c'est qu'est-ce qui peut résister à l'économie désocialisée, dépolitisée, parce que globalisée et financière. Ma non-réponse vient d'être, ça ne peut pas être des acteurs sociaux, des réformes sociales, des initiatives sociales, qui sont nécessaires, tout ce que vous voulez. Mais c'est justement cela, notre problème, c'est que cela a été détruit. Face à quelque chose qui est au-dessus du social et qui est l'économie globalisée, on ne peut réagir, on ne peut se défendre, on ne peut contre-attaquer qu'avec des acteurs ou des objectifs qui sont au-dessus du social. Et qu'est-ce qui est au-dessus du social? Et en particulier, dans notre tradition, dans notre histoire culturelle et intellectuelle de divers pays, en particulier des pays européens, c'est l'appel à l'universel. Pas un universel vague, de bonne volonté, l'humanité, mais là, l'universel tel que nous l'avons exprimé, par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ou même, bien entendu, dès la Glorious Revolution de 1688, ou l'indépendance américaine, ou d'autres textes fondateurs. Je veux dire par là, et c'est en ce sens-là qu'une tradition ou des traditions de pensée nous oriente vers ce qui, à première vue, apparaît comme léger, opposé, universel, etc., les droits de l'homme à l'économie globalisée, erreur. Il n'y a que ça qui est la force de s'y opposer. Un mot a été prononcé il y a un instant, c'est un mot clé, à mon avis, qui est le mot peut-être le plus mobilisateur qui soit dans le monde entier à l'heure actuelle, est le mot dignité. Ou je vais prendre le mot qui est son opposé exact et qui est également un mot prononcé partout et tout le temps et tout aussi mobilisateur, qui est humiliation. Je veux être respecté dans ma dignité d'être humain et ne pas être humilié, et cela dans l'ordre politique, dans l'ordre social, dans l'ordre culturel, bien entendu, pas en dehors des situations vécues, concrètes, collectivement et personnellement. Et le grand problème est de savoir si nous avons la possibilité d'opérer ce passage est un passage aussi difficile qu'a été le passage d'une pensée essentiellement politique à une pensée essentiellement socio-économique, ou avant d'une pensée essentiellement religieuse à une pensée essentiellement politique, nous devons passer d'une pensée socio-économique à une pensée culturelle universaliste, ce qui veut dire aussi à l'échelle du monde, mais c'est une autre affaire. Je termine en disant ceci. Si vous n'apportez pas une réponse de ce type, inutile de perdre du temps à inventer des projets de réforme. Ça ne peut pas marcher si nous n'avons pas la force de mobilisation que nous avons eue il y a 100 ans ou 150 ans, d'abord avec l'esprit révolutionnaire, ensuite avec le mouvement ouvrier. Nous ne pouvons pas créer les institutions, les mouvements sociaux et culturels, les transformations politiques dont nous avons besoin. Mais je ne peux pas terminer là, je dois ajouter deux mots. Le premier, c'est qu'une fois qu'on a compris cette nécessité d'une action universaliste, il faut le plus vite possible s'entendre sur le rôle du politique, de la mise en forme politique. Et après tout, on peut très bien dire, la politique doit réintroduire cet universalisme à propos des minorités, à propos du monde entier, etc. Et je crois que c'est faux. La position que je défends, en tout cas qui me semble correspondre à ce qu'on peut penser aujourd'hui, c'est que la politique ne peut défendre ses orients, mobiliser ses énergies universalistes, que si elle-même se centre sur les problèmes du travail, qui ne sont pas du tout des problèmes, qui sont, si vous voulez, sociétalement parlant, des problèmes qui ont perdu leur centralité, mais qui, politiquement, ont gagné de plus en plus de centralité. Les problèmes politiques se jouent là-dessus. Il y a quand même des éléments de redémarrage, des petites lumières. Oui, mais écoutez, c'est trop facile de dire, bon, ça s'arrangera bien. Finalement, ça s'arrangera. Non, tout ne s'arrange pas. Tout ne s'arrange pas, le monde est plein de catastrophes et de continents qui ont sombré ou de pays qui ont sombré. Aujourd'hui, ce que je sens comme force porteuse, c'est qu'avant tout l'écologie politique qui, elle, répond à ces préoccupations, et je dirais avec un peu de doute, parce que c'était vrai, ça devra être vrai, mais c'est pas un bon moment, dès le féminisme, où toutes les réflexions sur la sexualité et les comportements sexuels au sens large du mot. Où ça, nous sommes en ce moment en creux, en France. Mais le problème que je souhaite que nous puissions discuter, c'est est-ce que ma proposition est acceptable ou non, et deuxièmement, comment est-ce qu'elle peut être transformée par étapes, en proposition et en réforme. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là.